écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Junier, des garçons aux yeux verts. Mise en scène, production Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisé sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sur cette marque sont la propriété de l'auteur. Blanche dit à son mari, on pourrait peut-être aller lui dire quelque chose. Il lui dit, pourquoi ? Il a fait son devoir. Mais il a beaucoup travaillé, tu sais. Et alors ? Il a eu peur qu'on lui coupe les vivres. Et puis, il faut qu'il apprenne à faire des efforts pour rien, juste pour la gloire. La jeunesse actuelle ne sait pas ce que c'est que le travail pour rien, le plaisir de réussir. Pour eux, travailler égale récompense. Il faut qu'ils apprennent que dans la vie, il y a des valeurs plus importantes, plus grandes, et qu'elles n'ont pas de prix. Le prix de gagner pour se prouver qu'on est le meilleur. Le mot de l'honneur, au nom de l'honneur, l'acte gratuit est plus beau, plus noble. Il doit l'apprendre. Elle lui dit, c'est un peu vieux jeu tout ça. Il lui dit, la grandeur n'a pas d'époque ni de mode. Il doit apprendre ceci. C'est apprendre à être un homme. Il soupire, il est bien jeune. Il est assez grand pour faire des bêtises. Il n'en a jamais fait. Qui te dit qu'il n'en fera pas? Il faut prévoir. Et pour cela, il faut former pour qu'il n'en fasse pas. Le soir, il retrouve ses parents pour dîner. Durant le repas, il leur dit « Je sors. » Les parents ne disent rien, mais le père dit à sa femme, « Tu vois, il se croit déjà tout permis. » Elle lui dit, « Parce qu'il sort pour fêter son bac ?» Son mari lui dit, « C'est le début. » Guillaume retrouve devant la gare de Perrache Gisèle. Il l'embrasse et lui demande « Ça va ?» Elle lui dit « Oui. » Et tes parents ?» Il lui dit « J'ai été très fière de moi. Ils ne croyaient pas que j'allais la voir. Et toi ?» Il lui dit « Moi, ils n'ont pas mourflé. Rien. Pas ça. » Elle lui dit « C'est bien. Bien comme ça, ils te laisseront tranquille. » Il lui demande « On va où ?» Elle lui dit, Brunet, alors allons-y. Tout en marchant, elle lui demande, comment tu connais le garçon? Elle lui dit, ah, Gérard, est-ce ton vieil ami? C'est un ami, des amis de ma famille. Nous rencontrons de temps en temps. Enfin, ils arrivent dans un vieil immeuble sur la place où est l'église. L'immeuble est ancien. Ils entrent dans l'allée. Elle lui dit, c'est au troisième. Ils prennent un vieil ascenseur ouvert. arriver au troisième étage, sonne à la porte de droite. On entend dans l'allée le bruit de la fête. La porte s'ouvre. C'est Gérard. Salut, entrez, ils entrent. Il y a du monde, ça danse. Les meubles ont été mis contre les murs. C'est sans dessus dessous. Ça semble un peu désordre. Gérard les mène à la pièce principale où il y a la fête. Une chaîne à fond, des filles, des garçons qui dansent. Gérard demande à Gisèle, tu danses? Et lui, oui, ils vont danser. Guillaume, triste, va se mettre dans un coin. Il la regarde danser tristement. Il trouve qu'elle se plaque un peu trop contre lui. Ça le rend jaloux. Et lorsqu'il est jaloux, il ne parle pas, parce qu'il a peur de faire des scènes. Lorsqu'ils ont fini de danser, elle vient vers lui. Il demande, ça va? Lui dit, oui. Il ne peut pas lui faire des scènes. Et puis, ça ne se fait plus. On allait à ringard. La fille appartient à personne. Elle est libre, même si elle a un grand amour. Et la soirée se continue. Ils ont dansé ensemble. Elle a dansé avec d'autres mecs, mais surtout avec Gérard. On a bu des jus de fruits, puis de la bière. Guillaume a fait comme les autres. Puis, après avoir bien dansé, on s'est mis par petits groupes à parler un peu, à s'approcher des fauteuils, canapés, un verre à la main. Guillaume s'est mis à côté d'eux. Guillaume trouve qu'il s'occupe un petit peu trop de Gisèle, Gérard. Gérard dit, moi, mes vieux, ils n'ont pas cru lorsque je leur ai dit que j'avais réussi mon bac. Ils ne s'y attendaient pas. Mais après, ça a été la fête. J'étais fou de joie. Et toi? Gérard lui dit, moi, rien. Je leur ai dit, ils sont restés comme ça. C'est comme si je leur avais dit que j'avais acheté des poireaux. Gérard lui dit, c'est de ta faute. Ils ont été tellement sûrs que tu l'as eu, ça leur apparaît normal. Tu avais été comme moi, joué à celui qui ne fait rien pour l'avoir. Là, t'aurais vu, Guillaume lui dit. Oui, mais là j'étais obligé, c'est de prouver que je faisais quelque chose. Parce que si je l'avais raté, ça aurait été ma fête, Gérard lui dit. Et maintenant, rien du tout, Guillaume lui dit. Remarque, je m'en fiche. J'ai fait ça pas pour eux, mais pour moi. Gérard lui dit, tu as raison, il faut faire les choses pour soi, rien que pour soi. Guillaume se penche vers Gisèle et lui dit tout bas, je l'ai fait pour toi, et ne dit rien. Et la soirée se continue. Chacun y va de ses projets de vacances. Mais Guillaume, il ne dit rien. Il veut garder son bonheur secret. Il se fiche d'Acapulco, du Maroc, de la Grèce. Pour lui, ses vacances, c'est Gisèle. Rien de plus. Le décor n'a pas d'importance. Puis, la soirée a continué. Certains ont voulu fumer de la merde. Guillaume l'a refusé, il leur a dit, j'ai pas besoin de ça pour être heureux. Il regarde Gisèle, qui elle semble lâche. Il est vrai que la soirée a été longue, très longue. Il lui dit, on s'en va. Elle lui dit, oui. Et ils sont partis. La fraîche du dehors leur fait du bien. Il y a peu de monde dehors. Il va l'accompagner jusqu'à chez elle. Comme il n'y a plus de car, ils sont obligés d'aller chez elle à pied. Après, il ira à Perrache prendre son car. Il est heureux. Il lui dit, je suis heureux parce que j'ai fait tout ça pour toi. Je t'offre mon bac. Elle ne dit rien. Il a dit ça. Mais elle ne dit rien, peut-être parce qu'elle est lorse. Il lui demande, tu veux qu'on prenne un taxi? Elle lui dit, non, ça va. Il lui dit, tu es heureuse que l'on parte en Angleterre? Que je suis bête, bien sûr que tu es heureuse. Elle lui dit, mes parents ne veulent pas que je parte avec toi. Il est surpris, lui dit, ça n'a pas d'importance. Nous partirons malgré tout ensemble. Elle lui fait, non, c'est impossible. Ils ne veulent pas que j'y aille avec quelqu'un. Il a mal. Il lui dit, bon, eh bien, tant pis. Nous ne partirons pas ensemble. Nous resterons ici. Et il lui demande, pourquoi? Moi, j'aimerais bien y aller là-bas. Il lui dit, mais tu préférais le voyage à moi? Elle hausse ses épaules et lui dit, on se voit toute l'année. Et puis, si ça me fait plaisir à moi d'y aller, il lui dit, et moi? Et nous? Elle ne dit rien. Il la sent têtue. N'ose plus rien dire. Tellement il a mal. Sa gorge se serre. Décidément, son bac est un échec. C'est vraiment un échec. Ses parents qui ne lui disent rien. Et Gisèle qui lui fait ça. Au lieu de tout faire pour rester avec lui. Elle n'est même pas capable de sacrifice. Oui, n'est pas capable de sacrifice pour mon amour. Elle sacrifie un voyage et de rester avec moi. Il a très mal. Il ose à peine la regarder. Il ne dit rien. Ne regarde même pas. Et elle lui dit ça comme ça. S'il ne lui avait pas parlé du voyage, il aurait attendu, elle serait partie sans rien lui dire. Ils marchent comme ça, l'un près de l'autre. Mais comme deux inconnus, qui n'ont rien en commun, pas de souvenir ni d'avenir, rien. Il a mal, très mal. Souffre de son mutisme, mais on peut parler et dire quoi? Elle ne veut plus partir avec lui à cause de ses parents qui ne veulent pas, mais elle aurait pu dire, eh bien, je reste avec Guillaume à Lyon, mais non, même pas capable de lui sacrifier un voyage. Voilà les filles. Tout à coup, elle lui dit, je suis lasse, je vais prendre un taxi. Elle lui dit, oui, bien sûr. Il voit un taxi. En arrivant vers les quais, voit lui et demande au taxi, vous pouvez me déposer rue Récamier? Il lui dit, oui mademoiselle. Elle ouvre la portière arrière, lui, elle s'engouffre, lui veut s'engouffrer. Elle lui dit, non, je rentre au sol. Il est encore plus mal. Il a vu le taxi s'éloigner. Il est resté sur le trottoir. Parti, disparu dans la nuit. Comme ça, son amour. Il ne lui a même pas dit au revoir, ni un baiser. Il a trop mal. S'en retourne à pied. À la tête qui lui tourne. Il sent on peut penser. Et il a peur de trop penser. Parce qu'il se dit que s'il pense, ce sera fini. Bien fini. Parce qu'il va comprendre que c'est fini. Et là, il ne le veut pas. Non, il ne veut pas que ce soit fini. C'est impossible que ce soit fini. Peut-être est-elle de mauvaise humeur à cause de la chaleur ou des examens. Et demain, ça ira mieux. Oui, demain. Toujours demain. Et quelque chose lui dit que demain, ce sera la même chose. Il est terrifié. Terrifié par tout ça. Ne plus la revoir, la voir. Malgré lui, il se met à pleurer. Il se sent bien malheureux et seul. Demain, même pas ses parents, rien, vidé, plus d'avenir. Le bac qui allait lui ouvrir les portes de l'avenir, les lui ferme, oui, les lui ferme bien au contraire. C'est fini, il n'y a plus rien, rien. Adieu Gisèle, elle le laisse comme ça. Il n'a pas compris que lui l'a aimé. Il l'aimait. Il l'aimait tant. Il aurait tant aimé de lui prouver son amour et qu'elle le comprenne, qu'elle en soit émue. Mais non, plus rien, rien. C'est la fin de tout. Il marche sur le quai du Rhône. Il se dit que s'il mourait, personne ne le regretterait, même pas sa mère, et Gisèle encore moins. Ça lui fait très mal que personne ne le regrette. Il en a assez de souffrir, il se dit qu'il va toujours souffrir comme ça. À quoi bon la vie? Il en a assez de tout. sur la berge, il s'approche de cette chose qui fait oublier. Il l'entend, voit qu'elle bouge comme une bête qui attend de le dévorer. Il voit qu'elle bouge à cause des reflets de lumière de la ville. Sympa. Reste un moment comme ça, malgré lui. Il a peur du néant. Il le souhaite et en a peur. Pleure sur lui-même. Pleure en se disant qu'il est seul à pleurer. Personne ne l'aime, surtout pas Gisèle. Doit tout tourner, ferme les yeux, parce que ça lui donne le vertige. Il sent qu'il perd l'équilibre. Et instinctivement, son corps, au lieu d'aller en avant, le retient en arrière. Il dit, même pas la mort ne me veut. Alors, la gorge serrée, il s'en retourne. Il ne sait pas comment il a fait pour arriver jusqu'à sa chambre. Se déshabille. Et se couche. Il veut tout oublier. Qu'il n'y ait pas le lendemain. Rien. Tiens. S'il mourait durant son sommeil. Malheureusement, il n'arrive pas à oublier comme il le souhaite. Parce que pour tout oublier, il faut avoir le sommeil le plus profond. Lui se réveille très souvent, réveillé par le cafard. Il se réveille malgré qu'il ne veuille pas. Il est réveillé par la lumière qui vient du rayon du soleil, des fentes du volet. Il y a un cafard partout. Il ne se lève pas. Il n'en a pas envie. On frappe à la porte. Il ne dit rien.
Tu dors encore ?
C'est sa mère. N'a pas envie de lui répondre. Elle lui dit,
il est tard, il faut te lever. Ton père dit que tu n'aurais pas dû autant t'amuser, faire la fête hier. Tu vois maintenant que tu n'es pas capable de te lever. Le lendemain, ça ne sert à rien de faire autant la fête le soir. Parce que le lendemain, tu ne peux plus rien faire.
Pour qu'on le laisse en paix, il se lève. Va à la salle de bain. Se regarde dans la glace. Une mauvaise mine, sans plus. Se déshabille et prend sa douche. S'habille, il retrouve au salon ses parents. Bonjour, sa mère lui dit.
Prends-lui ton petit déjeuner,
son père demande. Tu as la langue porteuse. La
langue de bois?
Non.
T'as bien t'amusé hier pour dormir jusqu'à 13h.
Il ne lui répond pas. Se met à table.
Et prends ton petit déjeuner.
Sa mère le voit.
Tu n'as pas faim?
Non, il n'a pas faim.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Le garçon aux yeux verts. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.